Donc, comme vous voyez, notre titre et notre sujet pour la fin de semaine, là, c'est vraiment entrer dans le projet de Dieu pour ma vie, découvrir et entrer dans le projet de Dieu pour ma vie. Et vous êtes au commencement de votre vie d'adulte, mais disons, certains sont un peu plus loin que d'autres. Mais voilà que je suis beaucoup plus loin que vous dans ce projet de vie que Dieu m'a confié. Et moi, je suis vraiment content de voir que vous êtes là parce que vous avez à cœur, justement, entrer dans le projet de Dieu pour ta vie. Vous auriez pu passer votre temps, sans doute vous avez des travaux à faire, des projets de l'école, n'est-ce pas? Mais vous prenez du temps pour le projet de votre vie et vous mettez de côté les projets de vos études. Je vous félicite parce que je pense que Dieu va vous bénir. Tiens, vous allez trouver, quand vous remettez dans vos travaux, là, vous aurez peut-être 10 fois plus de concentration et de bénédiction de la part de Dieu. Amen. Amen, amen. Donc, voilà. C'est comme ça que Dieu va vous bénir d'avoir mis à part, justement, ce temps pour lui et pour être à l'écoute de Dieu pour découvrir le projet de Dieu pour votre vie. Pour parler du projet de Dieu pour votre vie, là, moi, je vais vous parler un petit peu, vous montrer un petit peu ce soir, le projet de Dieu de ma vie. Et faut vous parler justement de mon épouse et moi. Donc, nous voici. Ça fait peut-être 1 an et demi de ce que cette photo a été prise. Et nous sommes ensemble depuis 39 ans, mariés. Et voilà que Dieu nous a bénis avec une grande famille. Donc, prochaine... il manque aussi quelques membres, tu sais. C'est très rare que nous puissions être tous ensemble. Mais voilà que Dieu nous a bénis. On a eu notre premier enfant, notre deuxième enfant, comme une famille normale. Puis on dit, mais pourquoi pas un troisième enfant? On avait 2 garçons, peut-être on aurait une fille, hein, le troisième. Et voilà que Dieu nous a donné des jumeaux. Des garçons encore. C'était un peu ça. Donc, on a vu que Dieu voulait vraiment nous donner des garçons. Mais toujours, peut-être la fille serait peut-être encore dans nos gènes, je ne sais pas, là. Et on dit, mais pourquoi pas un cinquième enfant? C'était une grande famille. Mais on disait, les minivans à l'époque avaient quand même 7 places, n'est-ce pas? Maman, papa, puis les 5 enfants en arrière. Puis on a décidé d'avoir un cinquième enfant. Et Dieu nous a joué un tour. Encore des jumeaux. C'est pas incroyable, hein? Et encore des garçons. Il manque un des jumeaux identiques. Donc, vous voyez celui le plus grand, là, en arrière, là, derrière moi, là. Tu as juste à faire une photocopie de lui, puis le mettre à côté, puis là, tu verras toute la famille qui est là. Donc, voilà. J'ai maintenant, il y a 5 petits-enfants dans cette photo-là, mais il y en a plus que ça maintenant. Donc, voici la prochaine photo, là. C'est extraordinaire, hein, ces 2 filles-là. Là. Quand Dieu nous a donné notre première fille, là, celle qui est la plus grande ici, j'avais seulement eu des garçons, uniquement des garçons. Mais Dieu m'a donné quand même des promesses là, pour des filles. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tant de garçons, pas de filles. Et j'étais au Nigeria à une conférence. Mais je vais vous parler un peu de la dimension internationale de mon travail aussi. J'étais au Nigeria, puis on attendait notre deuxième. Ma première petite enfant était un garçon. On attendait le deuxième. Puis on se dit, mais peut-être c'est une fille. Mais vous savez que la connexion Internet était tellement faible qu'on voyait justement la boîte objet ouvrait, puis je voyais « congratulations », donc « félicitations », tu sais. Donc, je savais que l'enfant était arrivé. Mais ça a pris encore 1 minute avant de savoir si c'était un garçon ou une fille. Et là, vous savez ce qui est arrivé? L'Esprit de Dieu est tombé sur moi. J'étais là dans la petite cabine d'Internet, là, et je me suis mis à pleurer. Des sanglots. C'était incroyable. C'était comme la guérison. Tu sais, Dieu m'a béni avec cette fille-là. Puis je vous dis, hein, elle est tellement mignonne, mais elle est vraiment affectueuse aussi. Hein, donc, elle a vraiment comblé mon cœur. Et, Et je lui dis toujours, il faut remplir mon réservoir, là, donc elle vient me remplir le réservoir. Là. Donc voici les trois maintenant, et notre, le grand garçon, le deuxième, le troisième. Donc ça, c'est les plus grands. Mais on n'a pas arrêté là, on a d'autres. Là. Mais là, on a eu cette fille-là, prochaine diapo, et vous regardez, on se regarde dans les yeux, là, mais qu'est-ce qui est arrivé là? On est tombé en amour l'un avec l'autre. Vraiment là. Cette fille-là, elle m'aime tellement, puis je l'aime tellement, là, c'est tellement spécial, cette fille-là. Et tu vois, elle a grandi maintenant, elle est un peu plus grande. Elle est extraordinaire, elle est belle, elle a des yeux bleus, inimaginables. Et voici, j'ai aussi un de mes garçons, parce que quand on assiste, là, ça fait beaucoup de, disons, de choses différentes. Un de mes garçons est allé en Chine, puis il a épousé une Chinoise. Et voilà, là, voilà, là, elle est très belle. Hein? Ils ont un petit garçon. Et voici que celle qui me regardait dans les yeux, là, elle a eu un petit frère. Ça fait juste 6 mois de cela. Donc, prochaine diapo. Donc, voici les deux garçons, là. Celui à droite, là. C'est de beaux enfants, hein? C'est incroyable, là. Je vous dis, je pourrais passer toute la fin de semaine en vous montrant des photos de mes yeux. Ce ne serait pas difficile du tout, là, je vous dis. Hein? Mais un aspect du projet de Dieu pour ma vie, là, c'était justement ma famille. Et quand Dieu nous a donné notre deuxième paire de jumeaux, là, c'est quand même extraordinaire. Hein? Et Dieu m'a parlé, il m'a dit, Barry, ça représente ma bénédiction sur ta vie. C'est comme Dieu, la bénédiction de Dieu, c'est gloire sur gloire, n'est-ce pas? C'est comme si Dieu nous bénit, mais il veut tellement nous bénir, là, c'est tellement un bon papa, là. À plus forte raison, donnerait-il, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu à ceux qui le lui demandent? Donc, on voit que notre Dieu est généreux. Puis Dieu m'a, avec cette bénédiction sur ma famille, là, c'est comme si Dieu m'a montré que, justement, c'est un signe de bénédiction, de sa bénédiction sur ma vie à moi. Donc, celui à droite, là, c'est un beau petit bonhomme, hein? Incroyable. OK, donc parlons un peu de moi. Moi, j'arrive de l'Ouest canadien. Donc, vous voyez cette belle photo ici? Ça, c'est l'Ouest canadien, hein, n'est-ce pas? Et qui a déjà visité l'Ouest canadien? Donc, vous savez, c'est quoi un peu les plaines? Donc, moi, j'ai grandi sur les plaines. Là, tu te lèves le matin, puis là, tu vois l'horizon, là, tu sais? Ah, c'est extraordinaire. Et les grands espaces ont beaucoup marqué mon imaginaire aussi. Puis, je vais vous en parler un peu plus. Mais vous voyez la maison blanche au centre de la photo ici, là? Ah, ça, c'est notre maison à nous. Et la petite fenêtre au centre, ça, c'est la fenêtre de ma chambre. Donc, mais on n'a pas toujours habité sur la ferme. Finalement, mon père, il voulait toujours être fermier. Mais ma mère ne l'aurait jamais épousé s'il était fermier. Donc, il faisait autre chose pendant 20 ans. Mais il avait toujours en arrière de la tête l'idée d'acheter la ferme, tu sais. Donc, c'était trop tard parce qu'ils étaient déjà mariés. Donc, voilà, ils ont acheté la ferme quand mon père avait 40 ans. On a déménagé sur la ferme qui était juste là. Mais finalement, c'était seulement à 2000, disons, 3 kilomètres du petit village où j'ai grandi. Donc, j'ai grandi dans ce petit village-là. Et vous savez que dans ce village, pardon, j'aurais besoin d'un autre verre aussi, merci. Dans ce petit village-là, c'était au cœur de l'Alberta. Et c'était au cœur aussi du Bible Belt, la ceinture de la Bible. Vous avez déjà entendu parler de cela? Mais dans l'Ouest canadien, avec tous les immigrants qui sont arrivés dans l'Ouest canadien, incluant mes ancêtres à moi, des deux côtés, disons, avec la vaste immigration de l'Europe, finalement, entre 1810 et 1910, il y avait 65 millions d'Européens qui ont quitté le continent de l'Europe pour venir s'installer en Amérique du Nord. 65 millions. Et mes ancêtres faisaient partie de cette vague d'immigration-là. Puis tout le monde voulait aller dans l'Ouest. Premièrement, l'Ouest des États-Unis, puis après ça, l'Ouest canadien. Donc mes ancêtres faisaient partie de cette vague d'immigration de la Russie, de l'Écosse, d'Angleterre. Et ils se sont installés justement sur les plaines comme cela. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait des chrétiens, surtout des méthodistes, hein, sur les chevaux et tout ça, qui suivaient un peu, disons, les villages et tout ça, puis prêchaient l'Évangile et établissaient les églises et les communautés chrétiennes un peu partout dans l'Ouest canadien. Et il y avait deux femmes dans les années 20. Imaginez-vous là. Deux femmes dans les années 20 qui avaient à cœur implanter des églises. Des fois, c'est compliqué pour les femmes dans les églises, là, encore aujourd'hui. Là. Mais ces deux femmes-là, elles ne pouvaient pas être pasteurs. Donc, ils ont pris le titre « Bible Women », donc les femmes de la Bible. Donc, elles ont implanté une église dans ce petit village qui s'appelle Wimborne, Alberta, une centaine d'habitants. Ils ont implanté cette église-là. Et mon père est allé dans cette église-là quand il était enfant, mais la famille Whatley ne voulait rien savoir de l'Évangile. Et quand mon père a eu 12 ans, à cause que ses frères ne voulaient rien savoir de l'école, de l'église, là, il a décroché, il a abandonné. Mais voilà que nous redéménageons dans le village, à deux portes de cette église. Et un pasteur est arrivé qui avait une vision pour les enfants, pour le ministère auprès des enfants, en 1966. Et je pouvais commencer le programme à 8 ans, donc j'ai 60 ans, là, donc j'avais 8 ans, et je pouvais commencer le programme justement pour les enfants. Et j'avais tellement hâte là, parce que finalement, il n'y avait pas grand-chose à faire là, dans le village. Là. Pas d'Internet, pas de télévision, pas de télévision. On avait deux chaînes là, à l'époque. Là. Donc, mais là, j'avais tellement hâte d'aller jouer avec mes amis à l'église et tout ça. Je ne voulais rien savoir de Dieu là. Mais je ne savais pas que Dieu m'attendait là, là. Dieu m'attendait là. Et j'ai entendu l'Évangile, j'ai entendu parler de Jésus, là. Puis j'étais bouche bée, là. Parce que je grandissais dans une famille, mais une famille qui n'était pas croyante. Une famille un peu libérale, chrétienne de nom, mais pas vraiment engagée, là. Et là, j'ai dit, « Oh, Dieu est vivant. Jésus est vivant. » Et j'étais tellement là, sensible dans mon cœur, tellement préparé par Dieu, là. Je me souviens une fois, là, j'étais à une rencontre d'église, j'avais 10 ans, là. Et l'Esprit de Dieu est tombé sur moi, là. Ce n'était pas une église pentecôtiste, là. Et je suis rentré chez moi en pleurant comme un bébé, là. J'avais été touché par Dieu, là, de façon incroyable. Et mes parents n'étaient pas encore dans le Seigneur, là. Puis là, leur enfant arrive à la maison, là, dans l'arbre, là. Mais je remercie ce qui est arrivé. L'Évangile a pris un terrain dans mon cœur, à moi, dans ma vie, à moi. Puis il a gagné, fini par gagner toute ma famille, là. Et même éventuellement mon père à moi. Et imaginez-vous là, moi-même j'ai baptisé mon père dans cette église-là. Quand il avait 65 ans, ça a pris du temps son affaire. Mais vraiment, mais moi je dis merci pour ces deux femmes courageuses qui avaient cette vision-là d'implanter une église-là. Ils nageaient vraiment contre le courant, n'est-ce pas, ces deux femmes? Ils ne pouvaient pas s'appeler pasteurs. Et il y a beaucoup de préjudices contre les femmes, des Bible women, beaucoup de préjudices contre elles, mais ils ont dit non, je suis appelé par Dieu, je vais foncer. Mais grâce à ces deux femmes-là, là, je suis là aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je vous dis, cette église est encore là, c'est encore une église qui fleurit, qui fait de l'évangélisation, qui a un impact sur la communauté. Là. Et je remercie le Seigneur de ces deux femmes fidèles qui ont eu cette vision-là. Mais comment un gars de l'Ouest canadien arrive au Québec? Ça, c'est l'autre question, là. Qu'est-ce que je fais là, là? Et d'où vient cette capacité de parler français comme je fais là? Parce que je vous dis, moi, je pouvais lire les boîtes de cornflakes le matin, là, puis je disais « le meilleur bonjour ». Je vous dis, c'est tout ce que je savais, là, puis je ne savais pas comment... Mais je rêvais de pouvoir parler français. Je me souviens, quand j'étais enfant... On partait en vacances, on allait toujours sur les montagnes de l'Ouest canadien. Et je me souviens très bien, on était là, puis il y avait une famille québécoise qui était juste là, à côté de nous, là. Puis ils parlaient une autre langue, puis je n'avais jamais entendu une autre langue, là. Puis j'étais tellement fasciné par cette langue-là qui parlait, là. Puis la fille à la table avait peut-être mon âge, elle est venue demander en anglais une de nos chaises. Et je dis, ah! Oh! Les gens peuvent parler deux langues. Et c'était la première fois de ma vie que je pouvais, c'est rentré dans ma tête, là, à 8 ans, que les gens peuvent parler deux langues. J'ai dit, un jour, là, je vais parler deux langues. Est-ce que je parle deux langues? Oui. Et j'ai laissé derrière moi mon accent anglais aussi, là. Okay? Je l'ai fait, là. OK, donc qu'est-ce que... Pourquoi le Québec? Moi, je dirais que ça fait partie un peu la façon que j'ai travaillé dans ma vie, là, quand j'avais 19 ans, j'ai pris un programme. Le programme existe encore aujourd'hui, où les anglophones peuvent apprendre le français, puis les Québécois peuvent apprendre l'anglais. C'est un programme qui est encore, disons, parrainé par le gouvernement fédéral. Et moi, quand j'avais 19 ans, là, je faisais partie de ce programme-là, à 19 ans. Et tout d'un coup, j'ai constaté, waouh, j'ai toute une capacité au niveau des langues. C'est un don que Dieu m'a donné. Et les gens étaient bouche bée devant ma capacité d'apprendre cette langue et de m'exprimer dans cette langue. Et je dis, mais peut-être il y a quelque chose que Dieu a pour moi. Puis en 1980, j'ai dit, mais si je voulais vraiment apprendre le français, j'ai commencé mes études en théologie et tout ça. Puis mes études, je suis allé à l'école biblique et j'ai dit, mais il faut que j'apprenne le français si je veux vraiment servir le Seigneur en francophonie. Donc je suis venu au Québec en 1980, là, dans la ville de Québec. Donc ça fait 40 ans là, que je suis, depuis ma première visite au Québec. Là. Donc c'est toujours touchant pour moi là, de visiter Québec puis de penser les 40 ans de ministère au Québec que j'ai connu là. Mais je suis arrivé là, et c'était une année extraordinaire. Puis je vous dis, on voyait les gens venir au Seigneur à chaque semaine, l'année longue. Et c'était pas des gens de d'autres pays, là. C'était des Québécois de souche, là, qui venaient au Seigneur à chaque semaine, l'année longue. Et j'étais émerveillé devant ce que Dieu faisait. Et j'ai constaté aussi que j'avais aussi le tour. J'aimais beaucoup les Québécois. C'était des gens très terre-à-terre. J'avais déjà fait une mission en France l'été précédente. Et je trouvais que les Français étaient plus difficiles un peu, des fois, que les Québécois étaient vraiment prenaient la vie plus, à l'aise que les Français. Donc, j'ai trouvé que je m'attendais vraiment bien avec les Québécois. Et donc, je voyais que Dieu me préparait pour un ministère au Québec. Donc, ça faisait partie un peu de mon appel, et je me suis marié, j'ai terminé mes études en théologie, je suis arrivé au Québec en 1985 comme jeune pasteur, et je suis arrivé dans une église à Montréal, et j'étais l'adulte le plus jeune dans l'église, et j'étais le pasteur, je suis devenu le pasteur. Mais je pense qu'ils étaient tannés du vieux pasteur qui était là, donc ils étaient contents d'avoir un jeune là, qui arrive, là, tu sais. Mais c'était quand même bien, et Dieu m'a donné le privilège de grandir avec cette église-là. Nous étions plusieurs jeunes familles, on a grandi ensemble, on a vu Dieu faire des choses extraordinaires dans nos vies. J'étais pasteur de cette église-là pendant 15 ans, et c'est là où Dieu m'a vraiment donné beaucoup de bénédictions. Mais j'ai constaté aussi que mon appel pour la francophonie était plus grand que le Québec, là. Donc, me voici là. Tu vois, là, j'avais pas de barbe, puis j'avais peut-être 30 livres de plus aussi, là. Vous me trouvez sur l'écran, oui? Vous voyez, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai commencé à... J'ai été invité à donner de l'enseignement dans un programme de maîtrise en Afrique francophone. Donc, moi, voici avec des étudiants du Sénégal. J'ai commencé en 2005 à voyager puis à enseigner aussi des cours de leadership aussi en Afrique francophone. Donc, j'ai fait, depuis 2005, j'ai fait pas loin de 40 voyages en Afrique dans le cadre justement de l'enseignement. Donc, voici un peu mon histoire à moi. Là, c'est vite fait, là, puis c'est peut-être pas assez vite, là, parce que le temps avance et vous êtes fatigué, là. Mais ça vous permet de me connaître un petit peu. Donc, c'est un bref survol de ma vie. Puis quand nous abordons les thèmes de notre fin de semaine, je vais quand même revisiter certaines choses et vous parler de certaines expériences que j'ai vécues. Donc, vous avez votre plan devant vous, hein? Donc, prochaine diapo, là. Pourquoi Joseph? Donc, pourquoi nous inspirer, justement, il est notre personnage clé pour la fin de semaine. On va regarder sa vie. Je ne sais pas s'il était vraiment comme ça, là, Joseph, là. Mais voilà, peut-être justement au niveau de l'habit, peut-être quand il était le prince de l'Égypte, il était peut-être un peu comme ça. Mais ce n'est pas un exemple parfait pour nous. Donc, peut-être nous ne serons, j'espère, nous ne serons pas trahis par nos frères et sœurs et jetés dans un puits. Là, j'espère que ça ne nous arrivera pas dans notre vie. Peut-être on ne se retrouvera pas dans des circonstances si pénibles qu'il a vécues. On ne sera pas jeté en prison accusé faussement. Pourtant, j'ai des amis burundais qui ont été jetés en prison et accusés faussement. Donc, je sais que ça arrive quand même dans la vie, encore de nos jours, de telles injustices. Donc, peut-être justement, on n'est pas appelé à changer le destin d'un pays là, avec nos expertises politiques, un peu comme Joseph avait ce privilège-là. Donc, il n'est pas un exemple parfait pour nous, mais il y a quand même des choses intéressantes à voir dans sa vie qu'on va voir. Mais on voit pourquoi, même si on regarde l'Ancien Testament, on voit un passage justement à la prochaine diapo. Pourquoi Dieu nous donne ces histoires dans l'Ancien Testament, dans la Bible? Et voici ce que dit 1 Corinthiens 10. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux, c'est l'apôtre Paul qui parle ici, du peuple d'Israël, ne furent pas agréés par Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Donc, on va revisiter l'histoire de Joseph cette fin de semaine. Et il y a beaucoup d'inspiration qui va venir de son exemple. Et en voyant aussi les gens autour de lui, ses frères et Madame Potiphar aussi, qui voulait le séduire et tout, là, en regardant ces différents personnages, on va voir aussi des exemples positifs et des exemples négatifs aussi. Parce que Dieu nous a laissé ces histoires-là pour des raisons très importantes, pour vraiment nous avertir, nous inspirer à différents niveaux. Donc, la pertinence de Joseph pour nous. Premièrement, il a ressenti jeune un appel sur sa vie. Donc, c'est vraiment voilà que Joseph était jeune et il recevait justement l'appel de Dieu sur sa vie. Donc, ça, c'est quelque chose pour vous. Vous êtes encore jeune et vous êtes là justement au commencement de votre vie d'adulte. Et c'est souvent dans cette période de votre vie que Dieu vous parle. Dieu a quelque chose à vous communiquer sur son appel sur votre vie. Deuxièmement, il a dû conjuguer avec un arrière-plan familial assez dysfonctionnel. Donc, je ne connais pas votre arrière-plan familial, là, mais peut-être vous dites, mais là, ma famille est vraiment là, pas en santé, là, dysfonctionnelle. Et là, vous vous sentez comme vous êtes en déficit là, à cause de votre arrière-plan familial. Mais vous savez que Dieu peut faire quelque chose avec vous, là. Il n'est pas limité par votre arrière-plan familial. Donc, on voit ça dans l'exemple de Joseph. Troisième, il a appris à lever les yeux plus haut que ses circonstances. Donc, on va voir que Joseph, il avait cette capacité de la part de Dieu de voir plus haut que ses circonstances. Et ça, c'est un grand défi, n'est-ce pas? Parce que nos circonstances peuvent être très, disons, difficiles là, devant nous. Là. Et on ne voit pas d'issue. Là. Mais comment voir plus haut que nos circonstances? Son exemple va nous inspirer. Il a aussi réussi à développer son caractère. Une base solide pour sa vie. Donc, on va prendre beaucoup de temps là, demain matin, justement, pour... Qu'est-ce que Joseph a fait pour avoir une base solide pour sa vie, pour sa prise de décision, pour naviguer la tentation et l'épreuve dans sa vie. Donc, on va voir, il a vraiment posé cette fondation solide. Il a aussi réussi à porter des responsabilités puis à devenir un homme fiable. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. La fiabilité... Et qu'est-ce que Joseph a fait pour arriver là? Et dernièrement, il a gardé un cœur tendre et généreux. Donc ça, c'est peut-être la chose la plus importante dans sa vie, on va voir là. Il a réussi à garder un cœur tendre. Il avait reçu, comme on dit en bon québécois, là, une claque. Tu sais, il a reçu des coups, des injustices. Et il aurait pu prendre une voie tout à fait autre dans sa vie, n'est-ce pas? Mais il a choisi de garder un cœur tendre et généreux. Et pour réussir le projet de Dieu pour votre vie, là, il faut garder un cœur tendre et généreux. Donc, on va regarder son exemple. Donc, notre Joseph, prochain diapo là, nous invite à entrer dans son projet de sauvetage. Donc, notre Joseph, c'est intéressant quand vous regardez bien les pères de l'Église, ils voyaient beaucoup de parallèles entre Joseph et Jésus. Donc, les pères de l'Église aimaient beaucoup les allégories, n'est-ce pas? Donc, Il voyait Joseph comme étant un personnage qui était un peu comme Jésus. Tu sais, il avait un rôle de sauvetage, il a été trahi, il a été, justement, il a réussi à garder sa fidélité devant les accusations et tout ça. Donc, on voit beaucoup de parallèles. Mais nous avons notre Joseph, notre Jésus, là, nous invite dans son projet de sauvetage. Et nous voyons ceci dans l'Évangile selon Jean. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est plus mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis. » Donc, est-ce que vous avez bien entendu ça, là? « Je vous appelle mes amis. » Parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Donc Jésus est là, notre Joseph, n'est-ce pas, est là, puis il nous invite à entrer dans son projet de sauvetage. Donc, vous avez sur votre plan, justement, certaines questions. Et on va les garder brièvement pour terminer notre soirée. Donc, quand vous êtes, justement, dans votre étape de, votre étape de vie, il y a certaines questions que vous vous posez, là. Donc, les questions sur le plan identitaire et existentiel. Donc, à quoi sert ma vie? Comment je peux faire une différence réelle dans ce monde? Donc, c'est une question qui nous préoccupe. Hein? On ne veut pas simplement faire de l'argent, tu sais, regarder la télévision, jouer à l'ordinateur toute notre vie. Là, on veut que notre vie compte pour quelque chose. Et Dieu met cette soif, ce désir dans nos cœurs. Donc, il y a cette soif-là de faire une différence dans le monde. Aussi, sur le plan relationnel. Avec qui je vais construire ma vie? Qui va cheminer avec moi? Donc, vous êtes à l'étape de votre vie où vous posez des questions, mais qui va cheminer avec vous, là? Qui sera votre partenaire de vie? Qui seraient les amis avec qui vous allez cheminer? Parce que on dit que si vous voulez aller vite, aller seul. Si vous voulez aller loin, partez ensemble. Donc, vous avez besoin aussi des amis. Donc, sur le plan d'attente familiale, comment combler les attentes de ma famille tout en poursuivant mon propre chemin et appel? Et est-ce possible? Je pense que plusieurs parmi vous, vous êtes d'origine africaine peut-être, vous avez des familles, et je sais que les familles africaines, là, ils mettent beaucoup d'attentes sur leurs enfants. Est-ce que je me trompe, là? J'ai beaucoup voyagé en Afrique, là. Et les parents investissent beaucoup dans leurs enfants au niveau de l'éducation. Et ils ont des attentes, là, en retour. Et vous devez conjuguer avec ces attentes-là. Et pour nous, peut-être Québécois, Canadiens, c'est peut-être d'origine, là, c'est peut-être moins lourd sur nous, mais il faut savoir comment conjuguer avec ces attentes-là. Comment à la fois respecter mes parents et entrer dans le projet de Dieu pour ma vie. Donc, c'est une question importante. Sur le plan économique et vocationnel, comment investir mes énergies, ma capacité, ma formation pour gagner ma vie et pouvoir à ma famille, peut-être éventuelle? Donc, c'est des questions importantes. Vous êtes là en train d'être formé pour une carrière quelconque. Donc, ces questions-là aussi sur le plan vocationnel. Sur le plan personnel et intérieur, comment surmonter peut-être le découragement, la culpabilité, qui a tendance à écraser ton cœur. Peut-être que vous êtes dans une phase difficile de votre vie actuellement. Et c'est surtout le poids qui pèse sur votre cœur. Et sur le plan environnemental, on entend beaucoup parler, n'est-ce pas, de nos jours. Et c'est que vous êtes beaucoup plus sensibilisés à ces questions-là que nous étions, quand moi j'avais votre âge, justement. Comment vivre dans l'espérance avec ce nuage sombre de changement climatique à l'horizon, là? C'est une question qui aussi nous préoccupe. Donc, quand vous pensez, quand vous regardez ces questions-là, essayez de prendre juste 2 minutes maintenant, puis regardez la liste de questions, puis quelles seraient, sur la liste de questions, quelles seraient les 2 questions peut-être les plus probantes pour vous, là, au commencement de cette fin de semaine? Les 2 questions qui vous rongent, peut-être. et juste les prendre en note et juste prendre juste quelques minutes pour réfléchir sur ces questions-là. Peut-être encore 30 secondes. Donc, mon encouragement pour vous, là, cette fin de semaine, c'est de garder ces deux questions devant le Seigneur dans la prière. Et vous aurez du temps seul aussi, vous aurez du temps de prière ensemble avec d'autres. Mais et je peux vous dire aussi que moi, je suis là et Joël est là, Cécile est là, aussi, on a d'autres personnes ressources, peut-être Joël pourrait nous en parler, qui seraient prêts aussi à prendre du temps pour prier avec vous, là, si vous désirez. Peut-être que vous avez une question... vous aimeriez ça que recevoir de la prière ou justement nous en parler. Et on est là, présent pour vous. Un peu notre plan pour la fin de semaine. Vous avez ça sur le. Premièrement, la soirée d'introduction ce soir, demain, matin. On aura deux séances ensemble, finalement, deux côtés de la même médaille, finalement. Naviguer le combat avec la tentation. Et deuxième, se fortifier pour bien combattre. Et nous avons justement préparé une petite étude biblique pour vous, un guide qui pour vous aider à vous préparer un peu personnellement demain matin là-dessus. Demain soir, le chemin de la restauration. Donc, on va prendre du temps justement pour voir, mais qu'est-ce qui fait que Joseph a pu garder son cœur tendre à travers les difficultés de sa vie. Donc, on va voir qu'il a vraiment choisi le chemin de la restauration dans sa vie. Donc, on va regarder ça demain soir. Et dimanche matin, on va prendre du temps pour voir peut-être plus concrètement comment bâtir pour le projet de ma vie. Donc, quels seraient les engagements qui me permettraient justement de m'assurer que je bâtisse pour le projet de Dieu pour ma vie. Voilà un peu ce que nous avons comme projet devant nous là, pour la fin de semaine. J'aimerais ça prier pour vous. Donc, on peut se mettre debout. Oh Seigneur, nous sommes devant toi ce soir et comme nous chantions tantôt, les mots nous manquent pour te dire combien merveilleux tu es. Seigneur, tu t'es révélé à nous. Seigneur, tu as mis des gens sur notre chemin qui nous ont parlé de toi. Et nous voici aujourd'hui, on est là. Tu nous invites à entrer justement dans ce projet. Tu nous dis que nous sommes tes amis. Et tu veux nous communiquer avec nous ce que le Père a mis dans ton cœur. Et tu veux qu'on porte du fruit pour toi et pour cette mission que tu nous confies, Seigneur. Donc, je prie de nous accompagner ce soir et tout au long de cette fin de semaine, Seigneur, que nous soyons attentifs à ta voix, que tu puisses nous parler cette fin de semaine, Seigneur. Clarifier pour nous peut-être des questions que nous avons, Seigneur, et même nous parler peut-être spécifiquement et précisément sur des choses importantes pour nous. Seigneur, on remet le tout entre tes mains et avec action de grâce. Au nom de Jésus, amen.